Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et cet après-midi, une émission dédiée aux idées reçues qui pullulent en matière d'alimentation et de nutrition. En voici quelques-unes. Les œufs donnent du cholestérol, il y a du fer dans les épinards, les pâtes, le pain ou encore les amandes font grossir, il ne faut pas manger d'orange riche en vitamine C avant de se coucher, manger équilibré revient cher, l'ananas brûle les graisses, le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait, ou encore l'huile de pépins de raisin est bénéfique contre le cholestérol. Bref, nous allons essayer de démêler le vrai du faux dans le domaine de la nutrition en compagnie de nos experts. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bienvenue à nos experts qui vont nous aider à y voir plus clair dans la jungle des idées reçues en nutrition. Bonjour professeur Irène Margaritis, vous êtes la chef de l'unité de l'évaluation sur la nutrition et les risques nutritionnels à l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Bonjour docteur Catherine Lacronnière, médecin nutritionniste. Bonjour Sylvain Duval, biologiste. Vous publiez le guide des aliments contre les idées reçues. Alors la nutrition, l'alimentation, ce sont des domaines particulièrement propices aux idées reçues. Dans le domaine de la nutrition, on a parfois l'impression qu'il n'existe pas de véritable consensus scientifique, professeur Irène Margaritis.
Alors, le consensus scientifique s'obtient quand on expertise et quand on va au fond des sujets. Alors, très souvent, il y a beaucoup de vérités et de contre-vérités qui se télescopent d'une certaine façon et qui donnent des idées reçues qui sont véhiculées, qui passent d'une personne à l'autre et qui se répandent comme ça. Et c'est lié au fait que très souvent, on part d'une vérité, d'un mécanisme ou un effet qui est réel. Et puis, quand on le remet dans un contexte particulier ou dans certains cas, ça n'est plus vrai ou parfois ça n'a même jamais été vrai.
Catherine Lacronnière, c'est parfois une guerre de tranchées entre professionnels de la nutrition et d'ailleurs, le grand public a du mal à y voir clair.
Oui, le consommateur ne sait plus du tout qui croire parce qu'on va vous raconter une chose et son contraire avec des études à l'appui d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que la recherche, comme le disait le professeur Margaritis, donne plusieurs résultats. Il n'y a pas forcément de vraie vérité, si on peut dire ainsi, sur un fait. Il y a des tendances et puis il y a aussi le fait que pour pouvoir confirmer une information, eh bien, il faudrait aller voir au niveau scientifique et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et même en allant voir au niveau scientifique, eh bien, on s'y perd.
Sylvain Duval.
Ce qui est compliqué aussi dans ce domaine, c'est qu'il y a les grandes entreprises sont aussi capables d'embaucher des scientifiques qui parfois ont des conflits d'intérêts. Et justement, quand l'ANSES fait des études de littérature, elle essaie de prendre en compte l'ensemble des études. Et parfois, parmi ces études-là, il peut y avoir une étude très bien faite et très bien payée, mais qui va être faite par un industriel.
Irène Margaritis, quel est d'ailleurs le rôle de l'ANSES pour lutter contre les idées reçues en matière de nutrition et d'alimentation ?
Alors, derrière les idées reçues, on peut voir aussi des hypothèses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on émet une hypothèse ou une hypothèse qui circule. Et pour diverses raisons, on va aller vérifier cette hypothèse. Donc, le rôle que joue l'ANSES, c'est la vérification, donc par une expertise qui est collective, hein, donc qui est contradictoire avec beaucoup de personnes, d'experts qui viennent d'horizons différents. Donc, on va aller rechercher les éléments scientifiques qui vont permettre de valider ou d'invalider cette hypothèse et finalement arriver à un résultat et à une réponse à la question qui va permettre à la population, aux consommateurs, aux décideurs aussi de prendre des décisions qui conviennent.
J'aimerais que l'on passe au crible quelques idées reçues. Docteur Catherine Lacronnière, il paraît que le chocolat noir est beaucoup moins calorique que le chocolat au lait. A-t-on raison de se donner bonne conscience en privilégiant le noir plutôt que le lait ?
Eh bien non, mauvaise nouvelle. Eh oui, ces deux chocolats sont proches. Pour 100 grammes, on peut être à 10 calories près, donc sur presque 600. Simplement, ce qui est intéressant, si les calories sont à peu près les mêmes, c'est la composition de nos chocolats. Et dans le chocolat noir, il y aurait plus de polyphénol que dans un chocolat au lait. Et en tout cas, le lait contenu dans la crème contenue dans ce chocolat, et c'est également le cas pour le chocolat blanc, va limiter l'absorption de ces polyphénols. Donc pour la santé, il vaut mieux manger du chocolat noir, mais il faut aussi, si on fait attention à sa ligne, en manger en quantité raisonnable.
D'ailleurs, Sylvain Duval, noir ou au lait, le chocolat fait-il grossir ?
Mais en fait, le souci, c'est que faire grossir, on attribue souvent à certains aliments des effets minceurs ou à d'autres aliments des effets qui font grossir. Et en fait, grossir, c'est un sujet complexe. Ça peut être plein de choses. Ça va être l'état physiologique de la personne, ça va être aussi son état psychique, ça va être la façon dont elle s'alimente, si elle mastique ou pas, etc. Faut pas dire le chocolat noir fait grossir. Ça serait déjà quelle quantité de chocolat noir, etc. Et puis, ce serait oublier le plaisir qu'il y a. Et puis, je rajouterais juste que le chocolat noir, souvent, est plus riche en graisse, que le chocolat au lait, parfois, est un peu plus sucré. Et dans la nutrition, les graisses, ça pèse 9 et le sucre, ça pèse 4.
Le chocolat est-il d'ailleurs bon pour la santé, comme on l'entend souvent ? Sylvain Duval.
C'est pas prouvé, voilà. Là, on est dans un domaine où c'est pas prouvé scientifiquement. C'est prouvé que ça apporte du plaisir. C'est prouvé que le chocolat contient plein de molécules, des polyphénols aussi, d'autres molécules qui agissent sur l'activité cérébrale. Mais de là à dire que le chocolat, quand on en mange tout d'un, ça va avoir un effet qui va augmenter la bonne humeur, c'est difficile à dire scientifiquement.
Catherine Lacronière.
Parlons par exemple du chocolat blanc, qui en fait n'est pas un chocolat. Là, il n'y a pas beaucoup d'effets bénéfiques sur la santé, puisqu'on a un produit qui est riche en acides gras saturés, voire avec énormément de sucre. Donc, on ne peut pas considérer tous les chocolats au même niveau. Et c'est vrai que plus il va être noir, et plus il sera intéressant pour la santé, concentré, toujours pareil. Puisqu'on est dans un aliment qui, certes, est calorique, il ne faut pas non plus en manger en excès.
Guillemette Odissino.
Mais quand vous dites, on ne peut pas dire cet aliment fait grossir, et puis c'est tout, ça dépend de la vie de la personne, ça dépend de son état de santé. Mais est-ce que ça dépend aussi carrément de son métabolisme? Est-ce qu'on peut dire le chocolat va faire grossir Jeanne et va pas faire grossir Christelle? Et que ça, du coup, c'est une malédiction, quoi. C'est-à-dire que on est maudit parce que le chocolat nous fait grossir, alors que la voisine, c'est cool, ça lui fait rien.
Vous qui mettez Odissino, vous pouvez manger des quantités industrielles de chocolat, ça ne vous fait pas grossir. Non, mais c'est vrai.
Mais je ne sais pas, est-ce que je n'en mange pas pour autant des quantités industrielles? Non, mais c'est injuste.
On pourrait dire que Christelle a un métabolisme plus élevé, ou qu'elle stocke moins les graisses, ou des choses comme ça. Enfin, son état physiologique peut être différent de sa copine.
Mais par rapport au chocolat particulièrement, vous voyez, peut-être. Est-ce qu'il y a des aliments auxquels on réagit
un
mieux,
seul aliment,
pire.
Non, ce serait difficile à imaginer pour un seul aliment. Oui. Ce serait plus général pour les calories et pour son métabolisme en général.
Ouais, c'est intéressant comme question, parce que ça met vraiment en avant la question de la variation inter-individuelle d'une personne à l'autre, et puis même d'une intra-individuelle, ce qu'on appelle les variations intra-individuelles, c'est-à-dire pour la même personne, dans différentes situations, à différents âges de la vie. Donc il n'y a pas de vérité absolue non plus par rapport à ça, il faut vraiment être particulièrement prudent.
On entend souvent dire que les huîtres sont riches en cholestérol, Catherine Lacronière. Que dire sur ce mets festif que sont les huîtres?
C'est faux.
Merci d'être venu.
Merci de m'avoir invité, parce que c'est vrai, on dit toujours qu'il faut éviter les huîtres pour le cholestérol, parce que soi-disant elles sont grasses, mais il n'y a pas de cholestérol dans les huîtres, qui sont un aliment riche particulièrement en zinc. Elles ont également des protéines de haute qualité biologique. Alors bien sûr, il y a du sel. Donc ce seront plutôt les gens qui ont des problèmes d'hypertension artérielle ou d'insuffisance cardiaque qui devront se méfier. D'ailleurs, c'est à la période des fêtes où, quand on mange trop d'huîtres, on finit, quand on a un problème cardiaque de ce type, aux urgences. Eh bien, mais pour le reste, non, c'est pas du tout un problème de cholestérol.
On reviendra tout à l'heure sur d'autres aliments réputés donner du cholestérol. Irène Margaritis, question fondamentale, les graisses font-elles grossir? C'est une idée reçue très fréquente, ça.
Alors ça, c'est très très intéressant. Alors c'est historique, hein, les graisses font grossir. Il y a une étude qui a plusieurs décennies maintenant, qui avait montré que les personnes, une étude épidémiologique, qui avait montré que les personnes qui consommaient plus de graisses avaient un IMC, donc un indice de masse corporelle, c'est-à-dire étaient plus corpulentes que les autres. Et on s'est rendu compte que, d'un point de vue statistique, quand on ajuste, alors un ajustement, c'est prendre en compte un facteur, et quand on ajuste sur l'apport calorique, c'est-à-dire qu'à apport calorique égal, eh bien, les personnes qui consommaient plus de graisse, de lipides, n'avaient pas une corpulence plus élevée. Donc, très clairement, le fait de... Déjà, il faut poser le problème et savoir que le fait de grossir est lié à une augmentation, une production de graisse par le corps, qui est lié tout simplement à un excès énergétique. Donc on peut aussi bien prendre du poids, à partir du moment où il y a un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire qu'on consomme plus que ce qu'on dépense, eh bien on va stocker, c'est mathématique, c'est physique.
Et pour vous, Sylvain Duval, on devrait cesser de diaboliser les graisses?
Alors moi, c'est encore un rapport de l'ANSES de 2011 qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, parce que ce rapport, en fait, donnait un grand coup de pied à la fourmilière, justement, des graisses saturées, monoinsaturées. Ce qu'on dit, les graisses saturées bouchent les artères, les monoinsaturées sont bonnes pour le cœur, les polyinsaturées font baisser le cholestérol, etc. Et en fait, grâce à ce rapport, on a pu mettre en évidence que tout ça, c'était à peu près faux. Et qu'à part, finalement, à part l'acide palmitique, donc le fameux palmitate, c'était quasiment le seul qui était la seule graisse qui était un petit peu dangereuse pour la santé, mais le reste, quand on regardait le rapport de l'ANSES, on se rendait compte que, ben, pris dans des proportions normales, évidemment sans des excès exceptionnels, non, les graisses ne sont pas dangereuses.
On le retrouve où, cet acide palmitique?
Ben, on le retrouve, alors souvent on le retrouve dans les viandes, on le retrouve
dans l'huile de palme.
Bon. Alors, faut-il se ruer sans limite sur la mayonnaise qui accompagne les fruits de mer, Irène Margaritis?
Sans limite. Bah, déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'équilibre nécessite de ne pas se ruer sans limite sur un aliment et puis de manger un petit peu de tout.
Guillemette Odissino.
C'est la mayonnaise, c'est la mayo qui me fait penser à ça. Est-ce que on pourrait estimer que la mayonnaise faite maison fait moins grossir ou en tout cas est moins mauvaise pour la santé qu'une mayonnaise industrielle, par exemple?
À composition égale, il n'y a aucune raison pour que la mayonnaise maison soit... Donc c'est à composition égale. La question est quelle est la recette de la mayonnaise qui est transformée...
Sauf que dans la mayonnaise industrielle, on retrouve souvent du sucre.
Bon, on va retrouver du sucre et puis on va pas retrouver les mêmes graisses. Tout à l'heure, on parlait des graisses, mais la question des graisses, c'est une question qui est plutôt qualitative. C'est-à-dire que consommer des graisses, oui, mais consommer des graisses de bonne qualité. Il y a plein d'acides gras différents. Certains ont un effet assez intéressant et il faut veiller à l'équilibre des acides gras. Donc si dans l'aliment ultra transformé, on ajoute des graisses type huile de palme, qui sont pas très chères pour l'industrie.
Ou huile de soja.
Ou de soja, qui sont des graisses qui sont pas très intéressantes sur le plan sanitaire. Là, on n'a pas la même recette. C'est-à-dire, l'huile de palme, à la maison, on n'en met pas, parce que l'huile de palme n'est pas une huile de table qui est utilisable par le consommateur.
Catherine Lacronière.
Oui, ça nous ramène aux acides gras saturés. Vous savez, cette forme chimique spécifique dont on a dit depuis l'étude de Framingham, qui a été commencée juste après la Deuxième Guerre mondiale, que l'excès de consommation de graisses animales saturées est en rapport avec les maladies cardiovasculaires. Et ben, on a quand même changé d'avis sur certains acides gras saturés, en particulier ceux qu'on va trouver dans l'huile de coco, dans la graisse de coco, qui sont des acides gras saturés, certes, mais qui n'ont pas d'impact négatif au niveau cardiovasculaire.
Tiens, l'avocat est-il un aliment gras et calorique? Est-ce que c'est une idée reçue, Sylvain Duval?
Oui, c'est une idée reçue, parce que justement, dans mon livre, je le comparais à du pain, et je montrais que l'avocat était moins calorique que le pain. Alors que très souvent, justement, les gens auraient, comment dire, l'image inverse de cet aliment, donc très gras. Et en plus, l'avocat, c'est un aliment entier, donc c'est un fruit avec des polyphénols, des vitamines, des choses comme ça. Et donc, en plus, il est intéressant au niveau nutritionnel.
Les vertus de l'ananas, oh, il en a beaucoup. Chez les Caraïbes, l'ananas avait la réputation de stimuler l'appétit et de soigner les insuffisances de l'estomac. Ce qui est certain, c'est qu'il est riche en vitamines. Il purifie le sang, agit comme un diurétique, un antiseptique, et peut aussi dissoudre les calculs des reins. En outre, c'est un avis qui s'adresse aux jeunes filles coquettes. Grâce à la bromaline qu'il contient, il paraît qu'il fait maigrir. Mais ce n'est pas garanti par les spécialistes.
Un extrait des plantes de la découverte de Robert Arnaud en 1992. Alors que disent des spécialistes, tiens, sur cette idée reçue très tenace, l'ananas est un brûle-graisse, Catherine Lacronière?
Ce serait trop bien, hein, mais non. Ouais. Une fois, désolée de parler, c'est une légende urbaine en fait, ouais. Parce qu'on pense à la broméline, cette molécule qui serait censée brûler les graisses. Alors non, l'ananas a plein de qualités, mais pas celui de brûler les graisses.
Et la papaye, Sylvain Duval?
Pareil. La broméline, en fait, c'est une protéase, donc ça pourrait aider éventuellement à la digestion, mais il faudrait encore que cette protéase, donc cette molécule, passe la barrière de l'estomac. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de molécules, quand on les mange, l'estomac tout simplement les détruit.
Guillemette Odissino.
Non, mais enfin, c'est quand même dingue. Bon, moi, faut dire, j'ai grandi avec une maman qui s'est bourrée d'ananas pratiquement toute sa vie, donc qui croyait très, 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 très fort à cette légende urbaine. Donc, on n'est pas victime que des industriels. Hein. Nos parents nous mentent aussi. Parce que moi aussi, j'ai cru un moment que. Mais quand même, là, les industriels, ils n'empêchent, reprennent la légende urbaine, parce que les gélules à ananas qu'on nous fourgue dans les. Enfin, donc, en fait, c'est fou quand même. Donc, le mensonge devient. Officiel presque.
Ça existe encore ces gélules à base d'ananas?
Ça existe encore, et si vous saviez le nombre de gélules qui existent pour maigrir et qui ont un effet placebo, qui ne servent strictement à rien. Et encore heureux qu'en France, il y a une législation qui fait qu'on n'est pas de choses dangereuses, mais si vous achetez sur internet, c'est plus compliqué.
De façon plus globale, les produits allégés aident-ils à maigrir? Est-ce que c'est une idée reçue ou pas, Irène Margaritis?
Alors, c'est vraiment une idée reçue. Allégés en quoi? En général, quand ils sont allégés en sucre, ils sont enrichis en gras, et quand ils sont allégés en gras, ils sont enrichis en sucre. Ouais. Donc, ça marche assez bien.
Ouais. Que dit l'ANSES sur ce sujet-là?
Alors, nous, on ne s'est pas prononcé particulièrement, parce que disons que c'est même pas une hypothèse scientifique. Nous, on se prononce sur des hypothèses qui peuvent faire l'objet de controverses scientifiques. Là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce qui fait grossir et ce qui fait maigrir, voilà, c'est ce qu'on a dit encore tout à l'heure, c'est ce qui apporte de l'excès calorique. Donc, la question de l'alléger, c'est vraiment un argument marketing qui marche malheureusement assez bien.
Catherine Lacronière.
Et puis en plus, si on mange allégé, on peut se dire, bah tiens, je peux en manger plein. Ah oui. Et on aura plutôt l'effet contraire, hein. On va grossir.
Alexa Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Laura Laplot. Et c'est réalisé évidemment par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1989. Cette année-là, Michael Chang remporte le tournoi de Roland-Garros à l'âge de 17 ans. Et Rostropovitch joue du violoncelle devant le mur de Berlin. Belle journée à l'écoute de France Inter. B-52s interprété Love Shack.
Mesdames et messieurs, la côte de bœuf.
Ah, ah, bon, bon, bon.
Grand bien en face.
Alors j'en veux bien une tranche bien saignante, s'il te plaît.
Allez. Sur France Inter.
On s'intéresse à quelques idées reçues dans le domaine de la nutrition avec trois experts, le professeur Irène Margaritis, Sylvain Duval, biologiste, et avec le docteur Catherine Lacronière et une candide, Guillemette Odissino.
Comme chaque été, le jus d'orange prend ses quartiers sur les terrasses ensoleillées. D'un bout à l'autre de l'année, il nous nous accompagne dans notre vie quotidienne. Nous en buvons 27 litres par an et par habitant. Pour Caroline et ses amis, pas un jour ne commence sans un verre de jus d'orange.
Tous les matins, ça va avec le petit-déj. Tous les matins, un petit verre de jus d'orange avant d'aller au travail.
En plus de la douche, il faut le petit jus d'orange pour bien démarrer la journée.
Est-ce que vous avez le sentiment de consommer du sucre quand vous buvez un jus d'orange ?
Non, pas du tout. De consommer du fruit, oui, mais pas du sucre.
Un extrait d'Envoyé spécial en 2013. Alors, boire un verre de jus de fruits ou manger une compote, est-ce que c'est pareil que manger un fruit frais, professeur Irène Margaritis de l'ANSES ?
Alors, un fruit est un fruit, et une compote et un jus de fruits sont des fruits transformés. Donc, ce ne sont plus des fruits. Donc, la transformation, dans le cas de la compote, c'est une cuisson, notamment. Dans le cas du jus de fruits, c'est la pression, donc le jus a été pressé et très souvent, les fibres et une partie du fruit n'est plus dans le jus de fruits. Alors à cela s'ajoute le fait que le devenir métabolique, c'est-à-dire le devenir dans l'organisme du fruit, du jus de fruits et de la compote ne sont pas les mêmes, puisque quand on mange un fruit frais, ce qu'on a mangé va être délivré tranquillement, lentement à l'organisme. Et puis, lorsqu'on boit un jus de fruits, ça passe directement. Donc le sucre, notamment, qui est contenu dans le jus de fruits, par exemple, va passer beaucoup plus vite. Et c'est un peu aussi le cas pour la compote.
Sylvain Duval, je rappelle que vous êtes l'auteur du guide des aliments contre les idées reçues.
Elle a quasiment tout dit. On pourrait aussi rajouter, par exemple, la mastication. Si vous prenez un fruit, vous êtes obligé de le mâcher. Votre cerveau va le sentir, il va falloir un certain temps. Un jus d'orange, vous pouvez l'avaler en quelques secondes.
On est victime du marketing en matière de jus de fruits.
Énormément. Les gens, et surtout les mamans, d'ailleurs, souvent les mamans qui veulent que leurs enfants partent avec le matin un jus de fruits et des céréales pour les enfants, finalement sont victimes du marketing, de ce qu'on voit à la télé, de cette répétition des publicités, et puis parfois des allégations qui sont affichées sur les paquets.
Mais j'ai un ami qui me disait là récemment, mais moi j'achète des jus de fruits frais, bio, 100% fruits, c'est comme manger une orange. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ?
Je pense qu'il avait en tête cette image qu'on a vue tous à la télé, là où il y a tous les fruits qui se précipitent dans la bouteille et qui dit, voilà, cette bouteille c'est égal à 10 fruits.
Et c'est faux ça. Catherine Lacronière, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste.
Alors en fait, quand vous prenez un fruit frais, même si vous le transformez en jus, il va déjà y avoir une modification. Et puis, il va falloir le boire immédiatement parce que la vitamine C qui est comprise, par exemple, dans un jus d'orange est très labile, sensible à l'air et à la lumière. Donc, si vous faites votre jus d'orange pressé et que vous le laissez sur le côté, vous le buvez une demi-heure plus tard, vous n'avez presque plus les vitamines. Alors, c'est également le cas dans des jus de fruits industriels, sans compter le fait que ces jus de fruits industriels, ils ont peut-être été enrichis beaucoup en sucre.
Est-ce que boire un nectar de fruits, c'est boire le meilleur du fruit ? Je rappelle que le nectar, c'était le breuvage des dieux antiques, Irène Margaritis.
Et oui, voilà, c'est une idée qui est véhiculée. Le nectar, c'est le meilleur d'eux, si ce n'est que le nectar qui est utilisé d'un point de vue réglementaire pour l'appellation de certains jus de fruits, ce ne sont plus des jus de fruits, ce sont des jus de fruits auxquels a été ajouté du sucre. Donc les nectars sont plus sucrés que les jus de fruits, ce qu'on appelle les jus de fruits frais.
C'est une gourmandise.
C'est une gourmandise et il faut le voir comme ça.
Catherine Lacronière.
C'est une gourmandise, mais il ne faut pas non plus le prendre en excès, parce que de toute façon, on n'aura plus les vitamines, on aura beaucoup plus de sucre, on n'aura pas non plus les fibres qu'il y a dans un fruit frais. Donc, retournons au naturel.
Tiens, une idée reçue selon laquelle boire un jus de citron tiède à jour le matin, ça contribue à l'amaigrissement.
Pourquoi c'est toujours moi qui dis faux? disons que c'est une... Déjà, boire le matin à jeun, c'est une bonne idée. Ça a un impact sur le transit, mais c'est plutôt de l'eau froide que de l'eau chaude. Boire du citron, ça n'est pas complètement négatif. Est-ce qu'il va rester, quand on met de l'eau chaude, beaucoup de vitamine C? C'est pas sûr. Et puis aussi, quand on est... Ça peut être un petit peu agressif quand on a, par exemple, un reflux gastro-œsophagien ou des remontées acides, de prendre quelque chose d'acide comme ça à jeun. Ça fait pas maigrir.
Mais on dit que c'est bon pour le foie, qu'il y a une espèce de nettoyage hépatique par le citron, c'est faux aussi ça ?
Le foie, il se nettoie tout seul déjà, c'est sa première fonction.
Hein. C'est un organe d'épuration, comme le rein, comme la peau, et c'est vrai que de boire, de toute façon, ça ne fait pas de mal maintenant, le citron.
Ou boire de l'eau, quoi.
Sylvain Duval.
On en revient.
Peut-être que si on boit du citron le matin avec un verre d'eau, au lieu de prendre un petit-déj avec un café au lait et un pain au chocolat, peut-être que ça va alléger le foie, effectivement.
Alors, une idée reçue veut qu'il ne faut absolument pas manger les fruits au cours d'un même repas. Et pour vous, Sylvain Duval, c'est un concept absurde.
Alors ça, c'est un concept que j'ai retrouvé parfois dans certains discours de naturopathes ou d'homéopathes. Et j'ai du mal à comprendre au niveau physiologique. Parce que, en fait, les aliments se retrouvent dans l'estomac. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le bol alimentaire, où en fait, ils se retrouvent tous ensemble, mélangés dans l'intestin, et ils séjournent longtemps dans cet intestin, plusieurs heures ensemble. Donc j'ai du mal à comprendre comment, si on mange un fruit 10 minutes ou 10 minutes avant ou après le repas, ça pourrait avoir une influence, puisque ça va se retrouver dans l'estomac. Alors peut-être que si on prend le fruit 2 heures, ou vraiment au milieu de l'après-midi, en dehors de tout autre aliment, là, il va être digéré assez rapidement, et qu'on va bien récupérer ses vitamines et ses apports, mais sinon, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette recommandation.
J'entends souvent dire que ça fermente. Le fait de manger un fruit frais au cours d'un repas, ça fermente. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais Catherine Lacronière.
La fermentation, en fait, c'est une mauvaise digestion, un mauvais traitement par les bactéries, par le microbiote, hein, par les bactéries intestinales. Donc, il faudrait peut-être commencer, pour limiter la fermentation, par changer le microbiote, changer les bactéries, manger des aliments riches en probiotiques. Maintenant, la fermentation, pendant, après, il y a toujours des fibres, il y a toujours des aliments, des fruits en particulier, qui peuvent avoir des fibres dites insolubles, qui vont être mal tolérées par les gens qui ont un intestin irritable, donc les patients colopathes.
Irène Margaritis, manger un fruit, ce n'est pas forcément à la fin d'un repas.
Manger un fruit, ça peut être à toute heure, à tout moment.
Au début même.
Ça peut être au début d'un repas. Il n'y a absolument pas de règle par rapport à ça. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça entre dans le bol alimentaire.
Guillemette Odissino.
Mais justement, cette idée reçue sur le moment où il faut manger un fruit et tout, est-ce que c'est pas là la conséquence de tous ces trucs de régime dissocié, où maintenant on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut pas manger ceci avec ça c'est mieux, que ça s'annule. Enfin, alors, est-ce qu'il faut dissocier ou est-ce que, vu que dans le bol alimentaire ça dissocie plus?
Et pour aller dans le sens de Guillemette, c'est vrai que j'entends souvent dire, il ne faut pas manger des protéines avec des féculents, etc. Est-ce qu'on peut essayer d'y voir plus clair, tiens, Irène Margaritis, ou Catherine Lacronière?
Écoutez, les régimes dissociés ont fait la une dans les années 70, 80, même 90, en disant que c'était la meilleure manière de perdre du poids que de pas
satisfaire
certains.
Hein.
Voilà, ça persiste encore. Franchement, scientifiquement parlant, j'ai du mal à voir pourquoi est-ce qu'on devrait manger tel type de nutriments avec tel type de nutriments.
Là, il faut s'écouter, c'est-à-dire que c'est pas une vérité absolue. On peut s'écouter aussi. La science peut aussi avoir des petits manques en termes d'explications, de mécanismes. On en découvre tous les jours. Donc, individuellement, on peut aussi s'écouter et faire ce qui nous convient.
Sylvain Duval.
Oui, dans mon deuxième livre sur les régimes, justement, j'avais passé en revue les dissociés, la chrononutrition, les choses comme ça. Et par exemple, dans la chrononutrition, effectivement, physiologiquement, on va sécréter des enzymes un petit peu différentes, des protéases, des lipases, donc pour les lipides ou pour les protéines, à des moments différents de la journée. Mais au final, quand les études montraient que ça avait un impact vraiment mineur, cette chrononutrition sur le régime, et ce qui allait surtout être important, c'était l'apport en calories, comme le disait Irène Margaritis.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer pour te faire entendre, sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style, comme Kylian Mbappé. Et tu seras libre, si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre, ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. Mais quoi qu'il arrive, toi au moins tu sais. Tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué.
Julien Doré interprétait Kiki. Et on déboulonne cet après-midi quelques idées reçues autour de l'alimentation et de la nutrition.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors une idée reçue veut que manger une orange le soir empêche de dormir. C'est ce que me disait ma chère grand-mère maternelle.
Bon, alors cette idée reçue vient du fait que l'orange est associée à sa teneur en vitamine C. Bon, une orange apporte un peu de vitamine C. Que la vitamine C joue un rôle dans la production d'adrénaline, qui est une hormone du stress. Et donc ça, c'est typiquement la mécanique de la contre-vérité, c'est-à-dire que on a des petits bouts de vérité. Et puis, mis bout à bout, ce n'est plus vrai parce que la teneur en vitamine C n'est pas si élevée que ça et que l'effet, du coup, sur le sommeil sera négligeable.
Sylvain Duval.
Donc cet effet, il avait été testé chez des étudiants avec un placebo, avec un somnifère et un cachet de vitamine C qui correspondait à 10 kilos d'orange. Et en fait, il n'y avait eu aucune modification de leurs ondes cérébrales, de leur sommeil, de leur réveil, etc.
Mais moi, je croyais que dans les idées reçues qui s'effondrent, mais peut-être que ça en a créé d'autres, on m'avait dit qu'il y avait plus de vitamine C dans les fraises et les kiwis, par exemple, que dans les oranges. Ça, c'est vrai ou c'est encore la nouvelle idée reçue à la mode?
Non, c'est vrai, mais il y a aussi la vitamine C dans les légumes. Donc, compte-là, on ne mange pas de légumes le soir. On mange pas de soupe.
Il y en a dans le persil, alors. Il ne faudrait plus mettre de persil nulle part. Enfin, il faudrait beaucoup de persil, hein, quand même, pour avoir alors, les apports nutritionnels.
Et est-ce que le café aide à lutter contre la fatigue, Irène Margaritis?
Alors, le café peut réveiller d'une certaine façon. Alors, attention, seule une partie de la population est réceptive aux effets de la caféine. Donc, si vous n'êtes pas sensible aux effets de la caféine, aucun effet sur vous. Si vous buvez beaucoup de café, vous devenez moins sensible aussi avec le temps et vous aurez moins d'effet du café. Alors, ça n'aide pas à lutter contre la fatigue, certainement pas. Ça peut aider à masquer la fatigue parce que ça augmente notre niveau de vigilance uniquement. Mais en aucun cas, le café n'aide à lutter contre la fatigue elle-même.
Certains sont étonnés quand je leur dis qu'il y a de la caféine dans le thé.
Ben oui, c'est la même molécule. Alors, ce qu'on appelle la théine à tort, c'est de la caféine. À ne pas confondre avec la théanine qui se trouve dans le thé et qui a un autre effet, qui a justement un effet plutôt relaxant et qui joue aussi un rôle sur le fait que le thé, tout en contenant de la caféine, n'a pas les mêmes effets tout à fait que le café.
La théanine.
Théanine.
Catherine Lacrenière, j'entends souvent dire que le thé diminue l'absorption de fer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Ah, pour une fois, je vais dire que c'est vrai. Ah. Voilà. Oui, en effet, le thé va diminuer l'absorption du fer. Et donc, pour les personnes qui sont sujettes aux anémies par carence en fer ou qui ont eu des grossesses rapprochées ou qui ont une alimentation qui n'est pas forcément riche en fer, eh bien, on dit de faire attention à une consommation excessive de thé.
Guillaume Todicino.
Et comment faut-il faire infuser son sachet? Parce qu'alors, il y en a qui vous disent qu'il faut que si on le fait infuser longtemps, ça va être d'autant plus excitant, mais d'autres qui disent que c'est quand on le met très peu de temps qu'il est encore plus excitant le thé. Alors c'est dans ce sens-là?
C'est l'information que j'ai eue, effectivement, quand on met le sachet peu de temps, en fait, il y a peu de tanins qui se libèrent, et au final, c'est la teneur en tanins qui va faire, s'il y a beaucoup de tanins, il va même retenir un peu la caféine. D'ailleurs, dans le thé, il y a aussi pas mal de caféine, mais elle est retenue beaucoup par les tanins, en quelque sorte. Et c'est aussi ces mêmes tanins qui vont entraîner le fer dans les selles.
Donc plus vous infusez votre sachet, moins vous êtes réveillé.
Plus il est fort au goût et moins il est fort en caféine.
Professeur Irène Margaritis, une idée reçue veut que l'équilibre alimentaire se fait sur un repas.
Oui, alors on pense souvent au repas équilibré. Alors ça peut être bien, hein, le repas équilibré, à condition de succéder, de se faire se succéder les repas équilibrés. Mais l'équilibre alimentaire peut se faire sur une journée, mais il peut se faire aussi sur la semaine. C'est-à-dire que, par exemple, donc là, en période post-fête, par exemple, on peut très bien rééquilibrer son alimentation en ayant fait ce qu'on peut appeler des excès quelques jours ou sur quelques repas, et puis le lendemain et le surlendemain, avec un apport calorique qui est diminué, on va rééquilibrer l'ensemble et on peut s'y retrouver très bien à la fin de la semaine.
Et est-ce que le triptyque entrée, plat, dessert garantit l'équilibre nutritionnel ?
Alors absolument pas, surtout que le dessert en fait n'apporte pas grand chose.
Si, du plaisir ?
Oui, voilà. mais le repas aussi apporte du plaisir. C'est terrible,
oh, la voix
ça.
Du cœur.
Et l'entrée et le plat ?
Oui, oui, je suis d'accord.
Oui, bah oui. Donc, alors le piège avec le dessert, c'est que alors, c'est assez occidental hein, comme habitude, c'est que très souvent, si on ne pense pas à garder entre guillemets, une petite place pour le dessert, on va manger le dessert en ayant plus faim, c'est-à-dire en étant arrivé à satiété, c'est-à-dire que les calories apportées par le dessert arrivent en plus de tout ce qu'on a mangé avant. Donc il n'y a aucune nécessité d'avoir le dessert. On peut aussi faire plat et dessert. Le piège de l'entrée plat-dessert, c'est la quantité, parce qu'en général, les portions aussi sont assez grandes.
Catherine Lacronière, vous êtes de mon côté, vous êtes pro-dessert, j'espère.
Je suis pro-dessert, je crois que le plaisir est quelque chose de très important. Maintenant, pro-dessert tous les jours, ça finit par être dangereux.
Sylvain Duval.
Moi, je suis plutôt pro-entrée. Je dis souvent aux gens que manger une entrée avec une crudité, par exemple, avec en plus une vinaigrette, ça va préparer finalement votre estomac et puis ça va aussi diminuer votre appétit. Et en plus, ça va dans les crudités, il y aura des éléments intéressants pour l'absorption de la viande et des choses comme ça.
Il y a un autre intérêt à l'entrée aussi, c'est la diversité. C'est-à-dire si on a uniquement un plat, surtout dans notre façon de manger, toujours en Occident, on a très souvent des quantités importantes d'un ou deux ou trois ingrédients. Et donc, on en reste à ces 2-3 aliments pour tout le repas. Tandis qu'avec l'entrée, on va diversifier nos apports et là, ça devient plus intéressant.
Il y a un risque hein, quand même. Parce que moi, les crudités, je pousse avec du pain quand même.
On verra d'ailleurs tout à l'heure si le pain fait vraiment grossir. Irène Margaritis, à propos d'entrée, on partage un goût très prononcé pour la salade grecque.
Hein oui, oui, oui.
C'est un plat très complet.
C'est un plat qui est très complet, qui permet d'apporter beaucoup de végétaux. Aussi. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt de certains régimes, dont le régime méditerranéen d'ailleurs.
Alors le régime crétois, ouais, est-ce que ça marche?
Est-ce que c'est une idée reçue?
C'est la Cré-Noël, mais bon, est-ce que ça marche pour dans 2-3 jours quand on voudra un peu s'alléger?
Alors, dans la question, il y a une double question, parce que ça marche, ça veut dire ça marche pourquoi? Pour mincir? Non, puisque bon, mais... on va pas revenir sur la question des régimes amaigrissants, mais est-ce que c'est équilibré? Oui, ce sont des régimes alimentaires qui sont des régimes sains parce qu'ils sont complets. Parce que alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est le régime méditerranéen ou le régime crétois revu. C'est-à-dire qu'on parle souvent de ce régime-là sans considérer que, en réalité, à l'origine, ces régimes-là prennent en compte beaucoup de végétaux que nous n'avons plus dans notre alimentation.
Le pourpier, par exemple.
Par exemple, bon, et certaines épices qui étaient utilisées donc dans le temps et qui semble-t-il même en Grèce aujourd'hui ne sont plus utilisées.
Quels sont les grands principes du régime crétois méditerranéen? Les grands principes
alors,
communs?
Le crétois méditerranéen apporte énormément de végétaux, apporte aussi des aliments à base de produits laitiers et à base de viande, mais dans des quantités moindres que celles que nous avons l'habitude de consommer. Donc c'est un exemple d'équilibre alimentaire assez intéressant.
Catherine Lacronière.
Et de ce régime méditerranéen ou crétois, on a fait des alimentations qui sont utilisées maintenant pour lutter contre l'hypertension artérielle, pour lutter contre la dégénérescence des neurones. Il y a le régime MIND, il y a le régime DASH, qui sont des régimes qui ont été testés au niveau scientifique pour limiter tous ces facteurs de risque.
Sylvain Duval.
Et pour élargir un peu, moi je parlerais plutôt de mode de vie méditerranéen ou crétois, parce qu'en fait, on avait remarqué que c'est aussi valable un peu pour Okinawa, on a remarqué qu'en plus de leur alimentation, ces populations-là avaient une activité qui n'était pas sédentaire, avaient aussi une activité sociale, c'est-à-dire qu'il y avait un soutien entre les populations, il y avait parfois de la prière ou de la méditation qui fait une gestion du stress. Et donc, en fait, on voit que le concept de l'alimentation se replace dans le mode de vie et c'est un tout qui va faire le bien-être.
Tiens, une idée reçue qui me vient, est-ce que les amandes, j'en mange beaucoup, hein, Guillemette, vous confirmez, est-ce que ça fait grossir les amandes ou est-ce que c'est une idée reçue? Qui veut répondre?
Tout est une question de quantité. En fait, les amandes aliments ne sont pas un aliment particulièrement bas en énergie, donc en calories. Après, si vous en prenez une poignée, vous avez tout une bonne les bénéfices de l'amande. Si vous en prenez 4-5, ça se complique.
Sylvain Duval, j'avais lu une étude qui s'était penchée là-dessus, qui avait regardé la consommation d'amandes en grande quantité, et en fait, ils avaient remarqué que les fibres présentes dans l'amande finalement entraînaient aussi des graisses dans les selles, et qu'au final, la quantité de graisse absorbée n'était pas si élevée que ça. Et donc, c'était pas aussi calorique qu'on aurait pu le croire.
Alors, j'aimerais qu'on torde une bonne fois pour toutes l'idée reçue selon laquelle il y a du fer dans les épinards. Qui veut répondre? Tiens, Irène Margaritis.
Ouais, c'est amusant. Bon, on pense à Popeye tout de suite. Mais non, en fait, il n'y a pas de fer dans les épinards. Très peu. Il y a surtout de la vitamine C. On oublie qu'il y a de la vitamine C dans les végétaux, il y a de la vitamine C dans les épinards. Il se trouve que la vitamine C favorise l'absorption du fer. Alors, si on mange un repas qui contient d'autres aliments qui, eux, contiennent du fer, les épinards peuvent favoriser l'absorption.
Sylvain Duval.
Ouais, c'était dû en fait à une erreur d'écriture. Ça date du 19e siècle. Ça montre aussi que les erreurs peuvent persister très, très longtemps.
Une erreur d'écriture, c'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y avait un médecin qui avait dit. La quantité de choses dans les aliments, et là je crois que la personne qui avait retranscrit s'était trompée d'une virgule, donc au lieu que ce soit 0,2, elle a mis 2 par exemple.
Alors est-ce que la viande rouge est incontournable pour les apports en fer, Irène Margaritis?
Alors la réponse est simple, incontournable certainement pas, puisque beaucoup d'autres aliments contiennent du fer, les légumineuses contiennent beaucoup de fer.
Les lentilles.
Alors les lentilles, donc lentilles. La question du fer dans la viande rouge, c'est la question du fer héminique, c'est-à-dire qu'on sait que effectivement c'est un fer qui est mieux absorbé, mais si on fait varier les quantités, c'est-à-dire si on en mange plus de fer qui n'est pas héminique, on peut parfaitement bien parvenir à couvrir ses besoins en fer sans consommer de viande rouge.
Catherine Lacronière.
Oui, mais pour cela, il faut savoir où trouver le fer et pouvoir en manger. Parce que c'est vrai que les gens qui refusent aujourd'hui de manger de la viande rouge et qui ne mangeront pas plus de lentilles ou de céréales, on risque d'avoir une déficience en fer qui peut entraîner une anémie ferriprive.
Irène Margaritis.
La raison pour laquelle, justement, quand on a élaboré les recommandations pour le Programme National Nutrition Santé, on a laissé la viande parmi les recommandations, parce qu'on sait justement qu'en France, la majorité de la population a du mal à opérer cet équilibre, c'est-à-dire à aller chercher suffisamment de légumineuses ou d'autres aliments qui vont permettre de couvrir les besoins. Donc, ça facilite les choses, le fait de consommer de la viande rouge, mais pas plus de 70 grammes par jour, c'est-à-dire 500 grammes par semaine.
Sylvain Duval, pour vous, c'est une idée reçue de parler de bon et de mauvais cholestérol? Alors, expliquez-nous d'abord ce qu'est le cholestérol, peut-être.
Alors justement, il y a une différence entre le cholestérol et le bon et le mauvais. Le cholestérol, c'est une molécule qui est indispensable à notre santé, qui est constitutif en fait des membranes de nos cellules et qu'on va retrouver dans la bicouche qui protège nos cellules et qui est là pour à la fois les stabiliser et puis faire des passages pour que des choses entrent dans nos cellules. Ensuite, ce qu'on a appelé le bon et le mauvais cholestérol, ce sont en fait des transporteurs du cholestérol. Ce sont des très très gros édifices. Moi, je compare le cholestérol à une petite caisse et le transporteur du cholestérol à un cargo ou à un sous-marin qui va avoir une cargaison. Et dans ce transporteur, en fait, par exemple, le LDL qui va aller donc du foie vers les organes, celui qu'on appelle le mauvais cholestérol, en fait, c'est un transporteur qui est tout neuf et qui va apporter des choses toutes neuves aux cellules, qui vont être les vitamines liposolubles, A, D, K, plus du cholestérol qui en général est estérifié. C'est-à-dire qu'il est accompagné d'autres choses, il est accroché sur d'autres choses. Et celui qu'on appelle le bon cholestérol, en fait, c'est le transporteur du cholestérol qui va des organes vers le foie pour être recyclé. Et là, il va transporter, il va avoir un petit peu un rôle d'éboueur, d'épurateur, il va ramener des choses vers le foie pour que ce soit reconstruit et à nouveau ramené par le LDL.
Mais est-ce que le cholestérol sanguin bouche les artères? C'est ce qu'on entend très souvent, Sylvain Duval.
Alors, ce qui bouche les artères, c'est clair, c'est une plaque d'athérosclérose. Et en général, elle est obstructive au moment où il y a un caillot, ce qu'on appelle un thrombus en médecine. Et c'est ça, souvent, qui va provoquer soit un AVC, soit un infarctus du myocarde. C'est là le moment où ça bloque. Mais sinon, la plaque d'athérosclérose, si elle est calcifiée, donc si elle est ancienne, si elle bouge pas, elle est quasiment, on va pas dire inoffensive, mais elle est peu dangereuse. Elle va être dangereuse s'il y a des saignements ou si elle grandit.
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que une cholestérolémie élevée augmente le risque de la formation de cette plaque. Après, le devenir de la plaque, effectivement, dépend d'autres facteurs. Et l'autre élément est que le risque cardiovasculaire reste quand même multifactoriel. Donc, il n'y a pas que la question du cholestérol qui joue.
Oui, il y a en effet l'hypertension artérielle, il y a le diabète, il y a le surpoids, il y a tout un ensemble de risques qui vont favoriser la formation de cette plaque d'athérome. Et cette plaque est d'autant plus dangereuse, vous le disiez, si elle est molle et qu'une petite partie peut se détacher et aller obstruer un vaisseau plus bas.
Alors, une idée reçue veut que les œufs donnent du cholestérol. Est-ce que c'est vrai ou faux, Sylvain Duval?
Non, il y a même eu des études. Enfin, on a donné à des patients des grandes quantités d'œufs, 2 à 3 œufs par jour pendant plusieurs mois. Et on a vu, alors évidemment, il y a des variations individuelles, mais on a vu que globalement, leur taux de cholestérol bouge peu. Ça, pour certains, ça baissait, pour d'autres, ça augmentait. Et en moyenne, ça bougeait assez peu. Et en plus, je sais que dans l'œuf, il y a ce qu'on appelle la lécithine. Et que cette lécithine, elle va justement estérifier. Enfin, c'est un émulsifiant. Elle va retenir le cholestérol dans les selles. Et au final, elle va faire même diminuer le cholestérol absorbé. Parce que le cholestérol n'est jamais détruit. Il faut le savoir que c'est une molécule tellement précieuse qu'il y a un cycle entéro-hépatique. C'est-à-dire que le cholestérol est récupéré par notre corps.
Irène Margaritis.
Le contenu en cholestérol n'implique pas de faire augmenter le cholestérol. C'est-à-dire que le contenu dans l'aliment, c'est une chose. En plus, c'est une question de quantité. C'est aussi le devenir du cholestérol dans l'œuf ne fait pas forcément augmenter la cholestérolémie, c'est-à-dire la concentration dans le sang. Et surtout, il ne faut pas oublier que nous le fabriquons. Nous sommes capables, sans aliments riches en cholestérol, de fabriquer notre propre cholestérol, notamment en cas d'excès alimentaire.
Catherine Lacronière.
Oui, et cette fabrication au niveau hépatique est bien plus importante que ce qu'on va récupérer dans l'alimentation. C'est du 75-25. Hein.
Vous êtes rassurée, Guillemette Odissino?
Oh oui, parce que alors, vu ce que je mange comme œuf à la coque, omelette, machin, c'est fin. Ah, mais là, je suis, mais genre, je plane. je plane.
Oui. Hey Joe, Bandito dit qu'il veut des spaghetti spéciales avec des grosses boulettes de bœuf.
Mais les chiens, ça ne parle pas.
Il me parle à moi.
D'accord, tu as raison, tu es le patrone. Mamma mia, il parle avec les chiens maintenant.
Regardez-vous les amoureux, Tony, c'est le roi des spaghetti.
Un extrait de La Belle et le Clochard version Disney. Est-ce que les pâtes font grossir? C'est une idée reçue très tenace, ça. Et le pain et le riz, Irène Margaritis.
Alors, les pâtes, le pain et le riz sont des aliments qui contiennent des glucides, donc des sucres, qui apportent de l'énergie et qui, en excès, peuvent faire prendre du poids. Après, ce sont des aliments qui sont importants, qui apportent non seulement de l'énergie, mais aussi des minéraux. Et ils apportent d'autant plus de minéraux que les céréales ne sont pas ou peu raffinées. Donc on a plutôt intérêt à consommer ces produits-là en version moins raffinée possible.
Et les pâtes al dente, évidemment. Catherine Lacronière.
Oui, parce que quand on dépasse le temps de cuisson, eh bien, on monte ce qu'on appelle l'index glycémique, c'est-à-dire le pouvoir sucrant de l'aliment. Et ça, les patients diabétiques, ils font particulièrement attention, parce que ça permet de mieux réguler le taux de sucre, la glycémie dans le sang. Et puis les pâtes, elles vont faire grossir si elles sont accompagnées de crème, de lardons et de parmesan, ça c'est certain.
Irène Margaritis.
Bon, c'est vrai aussi pour le pain. Hein, c'est...
Tiens, justement, pour le riz. Guillemette Odissino, vous piaffez d'impatience.
Ah bah déjà, là, j'étais en train de voir passer sous le nez ma tartine beurrée. Donc, on a quand même le droit de beurrer un peu son pain. Non, je voudrais juste savoir quelle est la catégorie de pain qui soit la meilleure pour la santé. Parce que moi, évidemment, je pense à la baguette toute chaude.
Tradition
qui sort du four du boulanger. Et je suis sûre que vous allez me dire non, en fait.
Sylvain Duval.
Il va me dire non.
On va dire oui. Oui, elle est bonne, elle est croustillante, elle est chaude, elle est délicieuse. Par contre, au niveau nutritionnel, une farine un peu plus élevée sur une farine 110, pas une farine T40 par exemple, va être plus intéressante. Et puis, surtout, le pain au levain. Alors ça, c'est pas un pain qui est très très courant, mais on en trouve un petit peu maintenant dans les boulangeries. Parce que le levain, en fait, au moment où il est fait, les champignons vont sécréter des choses dans la farine qui vont l'enrichir.
Donc il faut du pain complet au levain.
Et changer son index glycémique aussi.
Pour terminer, autour de toutes ces idées reçues autour de l'alimentation et de la nutrition, un dernier mot peut-être, Catherine Lacronière.
Moi je crois qu'il faut manger de tout et qu'il faut se faire plaisir et qu'en mangeant de tout, on a d'autant plus de chances d'avoir tous les vitamines, les minéraux, les antioxydants pour une bonne santé.
Irène Margaritis.
Oui, la diversification et puis il faut éviter de se fixer aussi en permanence sur un aliment ou deux aliments, enfin, et éviter la répétition justement parce que le risque quand on fixe comme ça, c'est qu'on se limite en diversité.
Sylvain Duval.
Oui, il y a une idée reçue qui dit qu'il faut manger de tout et en petite quantité. Et en fait, moi, je dirais non, il ne faut pas manger de tout. Il faudrait supprimer notre alimentation ou en tout cas réduire les aliments ultra transformés et se tourner maintenant vers des aliments naturels, enfin des aliments entiers en fait.
Merci professeur Irène Margaritis, docteur Catherine Lacronière et Sylvain Duval. On peut retrouver toute la bibliographie sur l'appli France Inter. Demain, on s'intéresse au stress du déménagement. Dans un instant, vous allez retrouver la série d'Antoine Compagnon, Un été avec Colette.